What is this, Connor? Easy, old man. She's not hurt?
No. Not wounded, sir.
Get
easy.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena. Proprio non mi ricordate.
Che non si fa chiedissimo. Come fa chiedissimo.
Bonjour et bienvenue dans Cinémascope. La récré est terminée, messieurs, dames. On arrête de parler pendant le générique. À mes côtés, Olivier, Claude et Cathy.
Bonjour à toutes et à tous.
À toutes et à toutes. Eh oui. Eh bien, soyez les bienvenus pour ce nouveau rendez-vous avec la Palme d'Or dont vous allez parler aujourd'hui, le Sans Filtre, deuxième Palme d'Or pour ce réalisateur dont j'ai oublié le nom, parce que Ruben Östlund. Ruben Östlund. Et ensuite, nous parlerons aussi du Sixième Enfant, ainsi que de Tout fout le camp. Voilà, ça c'est les trois nouveaux films qui arrivent sur les écrans, qui sont déjà d'ailleurs sur les écrans, et que vous allez pouvoir découvrir tout au long de ce week-end qu'on annonce, et à la fois pluvieux, et à la fois venteux, et à la fois très ensoleillé, printanier pour dimanche. Ça c'est notre...
Ah bon.
Ouais, c'est le point météo du jour. Voilà, okay. C'est fait. Et puis pour la suite, eh bien, si le temps nous le permet, nous dirons peut-être un, deux, trois mots, peut-être, voire...
J'ai négocié trois mots, trois donc mots. On vient de l'entendre.
Sur Asbestas et la dégustation des films qui reviennent sur les écrans grâce à la maison de l'image du côté de Tueil à la fois ce soir et vendredi prochain. Alors on commence avec Sans Filtre, Palme d'Or de Ruben Östlund. Voilà, cinq années après The Square, qui avait déjà obtenu la Palme d'Or. Alors un réalisateur qui fait deux Palmes d'Or en 5 ans, c'est pas souvent quand même, il me semble, d'abord. Il n'y en a pas beaucoup d'abord. Il n'y en a déjà pas beaucoup qui ont dû avoir deux Palmes d'Or. C'est un cercle.
Bah, il doit y avoir Ken Loach.
Il y a Ken Loach, celui qui a fait Pelé le Conquérant, là, Billy August, qui a un double palmé. Tacopola, qui a un double palmé.
Il y a le canard aussi.
Avec Conversation de Socrate et Apocalypse Now.
Uh-huh.
Ouais, il
n'y en a pas beaucoup.
Après, les frères Dardenne, je crois que c'est les plus. Au total, c'est les plus palmés, entre guillemets. Ouais. C'est le prix de la mise en scène, prix Palme d'Or, tout ça.
Il est content de sa bêtise, hein, Olivier.
Ouais, bon, on n'a pas entendu.
Ah, le canard qui est palmé.
Oui, il est doublement palmé, ouais, comme la plupart des plongeurs, d'ailleurs. Voilà, bon.
Voilà, en tout cas, ce Sans Filtre nous emmène, je ne sais pas si on peut dire ça, j'ai lu ça, dans une bataille navale complètement déjantée.
Ouais.
Je ne sais pas si
c'est un peu... Alors, Sans Filtre, ça, c'est le titre français qui a été montré à Cannes sous le titre de Triangle of Sadness. C'est un habitué de Cannes, comme tu l'as dit. Il avait aussi Snow Therapy, qui n'était pas lui en compétition officielle pour la Palme, mais qui avait été présenté en 2015, je crois, ou peut-être avant, dans la sélection Un Certain Regard. Donc depuis...
Play aussi, c'est lui.
Play aussi, je crois que c'est lui, oui.
Sur cette avalanche là qui change.
Non, c'est Snow Therapy.
Snow Therapy, pardon.
Et il avait déjà été très remarqué grâce à Snow Therapy après The Square, qui était une espèce de satire de l'art contemporain. Ouais. Et là, on est un petit peu sur la satire du genre humain et des travers un petit peu du genre humain. En tout cas, c'est un des réalisateurs, je pense, qui s'est particulièrement traité ce sujet. Et effectivement, là, nous sommes sur un... Voilà, on suit un couple d'influenceurs, des mannequins au départ. Hein, ça commence dans le milieu du mannequinat. Ils sont amoureux. Ils partent en croisière. Et ensuite, ils vont se retrouver dans une troisième partie. En fait, il y a trois temps pour moi dans le film. Hein, on découvre, le spectateur découvre ce couple. Qui a déjà pas mal de travers, je trouve que c'est vachement très très amusant. Et puis ensuite il y a le passage sur le bateau avec la rencontre des nouveaux riches, enfin notamment des Russes là.
Après il y a le spoil que tu vas pas faire.
Et après je ne ferai pas le spoil, de la troisième partie, mais si, où ils se retrouvent sur une île
désertée. On le voit dans la bande annonce quand même.
Oui, mais dans la bande annonce on en voit très très peu et on n'a pas le contexte.
Exact.
Donc, je suis en train de découvrir le synopsis qui est indiqué, mais c'est vrai que ça donne pas énormément d'informations. Ouais. Mais en tout cas, 2h29 de ce film, moi, je l'ai découvert à Cannes. J'ai eu cette chance-là. Et honnêtement, j'ai pas du tout vu le temps passer. La salle était remplie. C'était le Grand Théâtre Lumière. Et les gens ont énormément réagi. C'est un film qui est drôle, qui fait la satire donc, des travers humains, de notre société actuelle, hein, avec ce milieu des influenceurs qui est bien présent, les nouveaux riches. J'avais lu un titre d'article où il y avait une question de lutte des crasses. C'était pas mal, je trouvais que c'était pas mal bien, trouvé. Ouais. Et voilà, et c'est totalement, je suis ravie en fait d'avoir quitté Cannes sur ce film, parce que pour moi, c'était, par rapport à tout ce que j'avais vu en compétition, c'était ma palme d'or. Bon, il restait encore beaucoup de films à présenter, mais honnêtement, je parlais pour moi, mais c'est vraiment ce que j'attends du cinéma, en fait. On se pose dans un fauteuil, on se laisse complètement embarquer. C'est drôle, c'est grinçant, c'est osé. Ça va très loin, parce qu'il y a vraiment, on va pas raconter, mais il y a une scène dans le bateau qui est complètement délirante et qui va très très loin dans l'exagération. C'est poussé, mais c'est tellement bien de le faire comme ça. C'est vraiment un film assez incroyable, et c'est génial qu'il y ait des financements et des moyens pour que des auteurs. Alors, j'ai lu qu'il était librement inspiré de L'île aux esclaves de Marivaux. Donc, on va faire la pub pour en livre un film, on va pouvoir en parler.
Oui, mais un livre de 1712, donc ça nous donne un peu de recul.
Mais c'est encore une librement adaptée. Mais enfin, voilà, il y a une écriture, il y a des dialogues, il y a un jeu d'acteurs super. On peut malheureusement regretter le décès de cette jeune actrice de 32 ans qui...
Charlie Dean Creek.
Qui est malheureusement décédée avant la sortie du film, et puis finalement dans des conditions un peu... s'est passé, mais voilà. Et c'est... Alors, je sais qu'Olivier n'aime pas les mots jubilatoires, par exemple, mais...
Non, j'aime pas bien jubilatoire. Non, j'ai écrit une chronique contre l'emploi de jubilatoire. Oui.
It's amazing.
Amazing, oui, tout à fait. Oui. C'est le même genre. Oui.
Donc, très bien. Bon. Allez-y, quoi. Vas-y,
oui, non, mais je suis d'accord, c'est un film jubilatoire. Hein. C'est-à-dire qu'il pousse à pousser des cris de joie, tout à fait. Non, évidemment, je suis entièrement d'accord avec Cathy ici. L'auteur, hein, donc Östlund, est apparemment très attentif, très sensible à la vanité humaine. C'est en cela que je crois qu'on touche à l'universel. C'est vanité des vanités, tout n'est que vanité, nous accrochons au vide, quoi. Donc il y a ce constat-là. Il y en a un autre, je crois, qui est présent dans Snowtherapy, et qui est même en avant dans Snowtherapy. C'est une espèce de désolation de l'auteur à l'égard de la lâcheté masculine en particulier. Et c'est vrai que là, on a quelques beaux exemples de lâcheté masculine. Un escort boy qui est féministe, donc c'est quand même assez énorme. Et puis un capitaine qui noie un peu dans l'alcool son incapacité à agir pour plus de justice dans ce bas monde. Enfin bref, on a beaucoup de figures. Le triangle de tristesse, en fait, c'est une zone entre les yeux et au-dessus du nez. Donc ça forme effectivement un triangle avec au milieu une ride qui se forme quand on a du souci de la tristesse, et donc c'est vrai que la traduction par sans filtre, c'est un peu léger. Ça fait penser effectivement, mais je connaissais pas, hein, à L'île aux esclaves de Marivaux, mais j'ai pas pu moi m'y référer puisque c'est Cathy qui me l'a appris il y a pas longtemps. Et donc effectivement, donc c'est une comédie de Marivaux en un acte en scène qui raconte l'histoire d'une île où les maîtres deviennent esclaves, les esclaves deviennent maîtres. Bon, voilà. Comprennent qui pourra par rapport au film. Et moi, ça m'avait fait penser pendant la projection à Sa Majesté des Mouches, Lord of Flies de William Golding, qui est un livre de 54 qui a été porté à l'écran par Peter Brook en 1963, où là aussi on assiste à la prise de pouvoir de ceux qui ne l'avaient pas. Donc c'est un film effectivement à voir pour les raisons que donnait Cathy.
Et c'est aussi le prix des cinémas à réessayer, puisqu'on remet à Cannes aussi un prix pour les cinémas à réessayer, et c'est son film qui a eu la... qui a gagné le gros lot.
Voilà. Alors on va dire ça. Donc c'est au navire aujourd'hui, si vous le souhaitez, à 17h45 et à 20h45, avec ce froid de canard, puisqu'on est dans les palmes. Eh bien, allez-y. Et puis la semaine prochaine, vous pourrez...
On va faire l'émission sur le canard,
ça va. Ça va se terminer.
Inspecteur Magré.
Ouais. Et la semaine prochaine, vous pourrez le voir du côté de Privas, c'est tout. Oui, Olivier, non, là, ça va trop loin. Alors, on va passer au sixième enfant. Là, on va moins rire, peut-être, avec ce film, Le sixième enfant de Léopold Legrand. C'est son premier film.
C'est son premier film, ouais, après quand même avoir fait quelques courts-métrages. Alors, d'entrée, puisqu'on parle de film primé, il a pris quatre prix à Angoulême, ouais, dont le prix du public. Et puis actrice, le prix de la musique, j'y reviendrai, ouais.
Et de l'actrice aussi, Sarah Guillaume.
Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et alors donc, un film de Léopold Legrand, 1h32, donc c'est bien moins long, mais bien, bien concentré, bien dense. C'est bon, voilà, moi j'ai particulièrement aimé, je tenais à tout prix à voir ce film. Le pitch rapidos, donc Franck, qui est interprété par Damien Bonnard, j'adore aussi Damien Bonnard, qu'on avait vu dans Les Intranquilles, dans Les Misérables, et dans Le Rester Vertical de Guy Roudy. Donc il est ferrailleur et avec sa femme Meriem qui a interprété donc
Giraudot.
Non,
Judith
Chemla, donc qui est la fille d'Isabelle Huppert, enfin pour faire le commérage, le people. Et donc ils ont pas mal de problèmes d'argent, 5 enfants, un 6e en route, donc ils font partie de la communauté des gens du voyage. Et puis l'autre couple, donc c'est Julien, donc qui est interprété par Sébastien comment il s'appelle déjà son nom?
Ah, mais ça, je ne l'ai
Laverne.
Laverne.
C'est Laverne, ouais. Benjamin Laverne, pardon, excusez-moi. Et puis, il me perturbe les autres en face,
oui,
là.
Je sais pas ce qu'ils font.
Benjamin Laverne. Et donc, son épouse Anna, qui est interprétée donc par Sarah Giraudoux, donc qui, eux, sont avocats, ont de l'argent, évidemment, et ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, l'histoire du film, en fait, ben, c'est l'histoire d'un impensable arrangement. Alors, le film, tout de suite, est tiré d'un roman, en fait, d'Alain Jaspard, qui s'appelle « Pleurer des rivières ». Ça renvoie à la chanson « Cry Me a River ». Et du coup, le réalisateur, Léopold Legrand, avait été extrêmement touché par les deux héroïnes du bouquin, parce que lui-même, il a vécu, en fait, sous une double figure féminine, si on peut dire, parce que sa mère étant morte quand il avait 6 ans. Donc, il a été élevé par la nouvelle épouse de son père, qui l'a adopté juridiquement. Voilà, donc, il a essayé d'adapter, enfin, moi, je trouve que c'est fortement réussi, ces thèmes de prédilection au cinéma que sont la filiation, la maternité et l'abandon. Voilà. Donc, on est dans l'histoire de deux mondes, en fait, qui s'opposent. Et notamment, ça apparaît nettement sur les décors. Et c'est vraiment deux mondes qui tout opposent. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du film, ces deux mondes vont se rapprocher. Enfin bon, je n'ai pas indiqué toutes les péripéties. Et je trouve que la fin pourrait presque se terminer. Vous rappelez de la fin de Casablanca, la célèbre formule et eh bien Louis, c'est le début d'une grande amitié. Voilà, ça pourrait presque se terminer comme ça. Donc, c'est un film extrêmement sensible. C'est un film où l'équipe technique, donc directeur de la photo, l'accessoiriste et le maquilleur, ont réussi, je trouve, à faire un boulot où il n'y a pas de misérabilisme, il n'y a pas de pathos, quoi. C'est quelque chose d'assez réaliste. Et c'est dû aussi au fait que le réalisateur a fait pratiquement un travail d'ethnologue, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est rendu au pèlerinage des Sainte-Marie de la Mer, où il a rencontré une femme qui s'appelle Nathalie Meyer. D'ailleurs, il a donné le nom de Meyer à la famille Franck et Meriem. Moi-même, j'y suis allé avant d'aller voir le film au Sainte-Marie de la Mer pour m'imprégner du truc. Et après, il a fréquenté donc l'association des gens...
Sainte-Sarah.
Ouais, parfait, ouais. L'association donc des gens du voyage de l'Essonne. Alors là, on a parlé de la musique, donc il y a eu un prix Angoulême. La musique est hyper importante, je trouve. Pas que, mais... donc c'est Louis Sclavis qui l'a fait. Alors les amoureux de jazz doivent connaître, parce qu'il est vraiment trompettiste et saxophoniste. Et alors j'ai vu qu'il avait fait en fait la musique d'une vingtaine de films, dont Bertrand Tavernier, donc ouais. Ça commence aujourd'hui, ouais. Et les films d'Amos Gitai, comme ouais. Kadosh, par exemple. Alors moi, je trouve que la musique, elle est hyper subtile, mais vraiment hyper subtile. Et je trouve qu'à la fois, elle accompagne et à la fois, elle nous emporte porte un peu au-delà. Et ça, c'est une notion qui est importante, là, cette notion sur l'imaginaire, parce que en appui à ça, enfin, vous verrez ce film, parce qu'il faut vraiment aller le voir. Enfin, pour moi, c'est une énorme surprise et une très belle surprise. En fait, le format est en 1:5. C'est ce qu'on appelle format carré, quoi. C'est le rapport entre la largeur et la hauteur. Donc, on est très près de la photographie, plus que du cinémascope, qui est en 2:5. Enfin, je parle pas de l'émission, mais qui est donc du coup. Et le format carré.
XXL,
le format 1:5 carré permet d'avoir un recentrage en fait sur les personnages. Du coup, on est vraiment sur ces gens. Et puis, en fait, voilà, c'est le format photo, quoi. C'est-à-dire que ça laisse beaucoup plus de place à l'imaginaire. Et notamment, c'est appuyé parce que bon, le film, enfin, tu l'as vu aussi. Il est, il y a beaucoup de choses hors champ, quoi. Il y a du non dit, il y a du non montré. Et en fait, bon, voilà, il y avait un travail volontaire de créer l'empathie du spectateur avec le public. Donc, c'est vraiment vous verrez, le format est super important. Et puis, donc, voilà, pour terminer, quand je disais qu'il avait été très marqué sur cette double figure féminine, enfin, ça apparaît vachement dans le film, quoi. Vous verrez ces deux femmes. Alors, je vais pas tout dévoiler, mais notamment la scène où il y a la première échographie, quand on voit les deux visages, là, c'est vraiment dément, quoi. Ça dit absolument tout, tout du film, quoi. Donc, vraiment un très, très bon film, une très bonne surprise aussi à nouveau de la rentrée, si on peut dire.
Ouais. Moi, j'ai juste envie de confirmer, j'ai presque envie de prendre un certain nombre de points que tu viens d'évoquer et pour en rajouter une couche. Le format photo, déjà, qui permet effectivement de bien rendre le jeu des acteurs, qui est juste extraordinaire. C'est une expression que j'aime pas beaucoup, juste, etc. Ouais, mais que ça soit Sarah Giraudeau, que ça soit Benjamin Lavergne de la Comédie Française, que ce soit donc Damien Bonnard ou
Judith Chemla.
Merci, je te remercie de. on est non mais c'est parce que ça m'évite de chercher dans mes notes étant donné que ma mémoire se barre un petit peu en sucette. Effectivement, un jeu très très fort. Moi, ça m'a fait un effet de véritablement de coup de poing. Je confirme aussi, de mon modeste point de vue, au niveau du montage. Effectivement, on a un montage qui met plein de choses hors champ, si bien qu'on est un peu surpris de l'évolution de l'histoire. Hein, on est un peu pris au dépourvu et ça accélère évidemment le rythme. On a en plus un rythme qui, au montage, fait en quelque sorte que le film s'accélère. Hein, plus on avance, plus
face à l'urgence de la situation.
Face à l'urgence de la situation, on a une sorte d'accélération du film. Et cette accélération, effectivement, moi j'avais noté la musique de Louis Clavis, clarinettiste également, qui, alors la musique, au fur et à mesure du film, les sons diminue en nombre, en intensité, les dialogues aussi se raccourcissent un petit peu, et par contre la musique devient de plus en plus présente. On a un quintet ou un sextet de jazz dirigé par Clavis, avec une musique écrite par Clavis, et au violoncelle, alors je tiens à le souligner parce que ça a été pour moi une rencontre importante, j'en parlais avec Cathy hier soir, Vincent Courtois au violoncelle, qui est un monsieur qui a à peu près mon âge, un peu plus jeune, mais passons, violoncelliste de jazz. Moi, j'avais assisté à un de ses premiers concerts autour de son premier album, et il a fait vraiment rentrer le violoncelle dans le jazz. C'est quelque chose d'absolument merveilleux. Et j'avais eu l'avantage, étant donné que je faisais à l'époque une émission qui s'appelait Contact et qui avait pour vocation d'interviewer des artistes, j'avais pu discuter pendant près de 2 heures avec lui après le concert. Et il avait, avec la plus grande des simplicités, il parlait d'une musique à la fois sophistiquée, mais quand même mélodieuse. Et c'est un peu la musique de Sclavis en général, et en particulier ici, c'est vraiment très très beau. Vincent Courtois, donc le violoncelliste, qui avait fait la musique pour Ernest et Célestine, le film d'animation qui avait tellement plu à ma fille. Donc je dis comme Claude, allez voir Le Sixième Enfant. C'est vraiment, comme tu le disais, une excellente surprise.
Et juste pour terminer, j'ai oublié de dire qu'en fait, c'est pas un documentaire, mais on a, je sais pas ce que t'en penses, mais on a une vision un peu peut-être différente aussi des gens du voyage, pareil, avec leurs traditions, leurs religions, leurs valeurs, et c'est très fort.
C'est très respectueux, ouais, des gens du voyage, et ça évite la caricature, de même que ça évite la caricature du milieu bourgeois, des avocats.
Très bien, on ira le voir, le sixième enfant.
Juste un point, j'ai essayé de retrouver...
Alors, je prends la main sur cette émission.
J'ai essayé de retrouver des films sur ce thème, j'en ai pas trouvé beaucoup, et j'ai repensé un film que j'avais vu, alors j'ai vérifié, il date de 97, qui était le film de Poirier, Manuel Poirier, Marion, qui était aussi sur une adoption, une sorte d'échange, avec Jean-Luc Bidault et Marie-France Pizier.
Alors, le sixième enfant... Aujourd'hui, au navire, 18h15 ou 21h. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié la bande-annonce. Cette fois-ci, je ne l'oublie pas. Voici la bande-annonce de Tout fout le camp, troisième film.
Moi, je voulais devenir un vrai journaliste, quoi. Puis, je me retrouve au courrier Picard.
Oui, le type qui a été candidat à l'élection municipale d'Amiens. Le boss veut que tu fasses son portrait pour le numéro du week-end.
Amiens, c'est aussi la ville de... Moi, je traverse la rue, j'en trouve du travail. Tu m'appelles Monsieur le Président de la République.
C'est gentil de nous accompagner.
Bah résultat, ma voiture est décédée.
Mais où là? C'est quand même bizarre, non?
Il faut savoir profiter.
On est lié maintenant. Je vois pas d'autre explication. À la vie, à la mort.
J'ai quand même pas resté collé toute ma vie à lui, moi.
Lorsque... J'aurais jamais dû accepter ce portrait de toi. On se tire vers le bas.
Je voulais qu'on continue à être ensemble.
Thomas !
Tu veux pas serrer un peu moins fort ?
Non, je préfère pas.
Il aime quand même vachement les arbres, Marie-Lou, non ?
Elle avait vraiment des gros seins. J'aimais vraiment beaucoup ses gros seins.
Ça t'ennuie si on avance un peu?
Attends, faut quand même que je te raconte mon dépucelage.
Non, ça va. Non, ça va, c'est pas la peine.
C'est beau, c'est beau.
Ça craque, hein? T'as toujours aimé quand ça craque.
J'aimerais être comme vous. On dirait une famille.
Oui, c'est beau, c'est beau.
Police! Je, tu t'es fait tirer dessus?
La pauvre policière, elle était toute tremblante, elle m'a fait de la peine.
La vie.
Belle bande originale, hein, de...
hein, très... C'est pas Sclavis.
Oui. C'est pas Sclavis, non, non. Comédie à la folie douce, j'ai relevé pour ce Tout fout le camp de Sébastien Bette-Bédé. Ça résume?
Oui, c'est vrai. En fait, moi, j'ai trouvé que Sébastien Bette-Bédé avait passé un certain cap dans la comédie, en tout cas, parce que jusqu'à présent, depuis Deux automnes, trois hivers, en passant par Le voyage au Groenland, ou la dernière fois, c'était Debout sur la montagne, qui était venu présenter en ouverture des Rencontres des cinémas d'Europe en 2019. Et il était là, d'ailleurs, il y a quelques semaines pour présenter le film. Il a passé un cap parce que effectivement, il a l'habitude de nous montrer des anti-héros, on va dire, et puis de faire un peu des buddy movies, donc des gens qui n'ont pas forcément, qui se retrouvent ensemble et qui n'ont pas forcément grand chose à faire ensemble. Et là, du coup, c'est vraiment ça, parce que c'est la rencontre. Entre Thomas, donc, qui est interprété par Thomas Simeka, qui est son un de ses acteurs fétiches, hein, qu'on retrouve pas mal, le portrait qu'il va faire, alors qui lui est pigiste au journal local dans le nord de la France, et qui va faire le portrait d'Uzé. Uzé, je n'ai pas malheureusement son vrai nom, mais c'est une personne qui est réelle, qui est musicien, enfin qui est pas mal... Il fait pas mal de choses, mais dont de la musique. Et c'est la rencontre déjà avec Sébastien et Uzé qui a fait que ce film existe. Et puis il y a aussi le personnage à part entière qui est dans le film, avec son originalité, son univers. C'est amusant parce qu'on a, dans le portrait d'Uzé, physiquement, entre Thomas Simeka et Uzé, il y a aussi des similitudes. On a un côté un peu frère, un peu jumeau, enfin bon, il joue beaucoup là-dessus aussi dans le film. Et après, on va partir dans une histoire, donc il y a leur rencontre, et puis on va partir dans une histoire un peu délirante, qui va tendre vers aussi le fantastique. On sort un petit peu du réel et de ce qu'il peut y avoir bassement sur Terre pour s'élever un peu et voir d'autres choses. C'est un côté poétique aussi, ça parle du temps qui passe. de quarantenaires qui se remettent un peu en question, qui ont l'impression encore d'être de vieux ados. Et c'est un film qui a une certaine... ouais, on va dire une certaine nostalgie, j'ai envie de dire aussi, enfin, qui pose un peu comme ça, qui suspend un peu le temps sur une époque avec des personnages originaux et plutôt hauts en couleur. Et on peut très bien ne pas peut-être être réceptif au film, c'est possible, parce que c'est une comédie qui est pas toute simple, et puis tant mieux, parce qu'on en a marre des comédies lourdingues. C'est bien aussi d'avoir des comédies un peu plus construites, un peu plus originales et qui nous font un peu réfléchir. Et c'est ce film-là, tout fout le camp, pas tout à fait, mais presque.
Ouais, c'est un peu, il est un peu reproché justement peut-être d'avoir tiré dans plusieurs,
plusieurs
sens.
Il y a leur amitié, il y a la rencontre avec le personnage interprété par Jonathan Capdevielle,
le chanteur.
Ouais, qui est surprenante aussi, avec une recherche un peu aussi de la famille. On tourne autour aussi de l'amitié, de la famille, des relations comme ça. Et puis il y a des scènes complètement délirantes. C'est un film un peu hybride. C'est difficile de le qualifier, mais il faut le voir et puis se faire sa propre avis.
Mmh. Et bien, ce sera au Navire aujourd'hui, 15h. Ah, c'est presque trop tard. Si vous êtes en pleine rediffusion, alors vous noterez dimanche à 20h30 ou la semaine prochaine du côté de Rosières au Foyer. Ça, c'était les trois films que vous aviez décidé de nous donner envie d'aller voir. C'est fait. Les autres aussi, hein, très certainement. Mais ceux-là, ils reviennent sur les écrans grâce à la Maison de l'Image. Ce soir, notamment, je crois que c'est la dégustation.
Oui,
c'est ça. Asbestas, c'est la semaine prochaine.
C'est ça.
Voilà. Donc, on va peut-être commencer avec la dégustation. Oui. Allez, petite bande-annonce. Allez, on y va, alors.
T'es magnifique.
Oui, tu me regardes.
Mon petit amour.
Bon, vous me le rendez ?
Ah, oui, bien sûr.
Je suis ridicule. Vraiment que je change de métier, ça devient trop dur.
Vous pouvez pas continuer comme ça.
Vous savez qu'avec la fragilité de vos valvules cardiaques, l'alcool est un facteur aggravant.
Et c'est pas parce qu'il y a écrit Médoc sur certaines étiquettes que ça va vous soigner de quelque chose.
Bonjour, je vais passer pour m'inscrire à un de vos ateliers de dégustation. C'est confirmé ?
Oui, jeudi.
Vous pouvez m'appeler Hortense.
Moi, c'est Jacques.
Vous allez la pécho.
Ça va pas bien, vous ?
Vous pouvez m'appeler Hortense ? Moi, c'est Jacques !
C'est fini, là, oui ! Une dégustation se déroule toujours en trois étapes. L'aspect visuel. Ensuite, on va sentir le vin. Et après, on le goûte.
Un peu comme avec une femme.
Alors, non, pas vraiment.
Tout va bien, j'ai ripé.
C'est idiot hein, de dire ça, mais j'ai l'impression de te connaître depuis super longtemps.
Je rêve d'avoir un enfant, alors je me mets à vouloir aller plus vite que la musique.
Oui, ben là, vraiment un peu trop vite. Moi, je peux pas m'occuper d'un gosse.
Toi aussi, t'as perdu quelqu'un de cher ?
Quand la vie est un peu trop grise, ça fait du bien. Un petit coup de rouge.
Elle est comment ?
Très gâteau.
Ah, sang du Christ.
Oh, il est bien.
On s'est encore emmêlé les câbles, Olivier et moi. C'est impossible dans cette radio. Rien ne va aujourd'hui.
On n'arrive pas à se séparer. C'est
dans ce cinémascope. Alors, la dégustation, vont-ils d'ailleurs eux aussi ou pas se séparer ou se retrouver ? Parce qu'on sent bien qu'il y a derrière ça une petite histoire. Hein.
Ah, il y a une belle histoire, oui.
Histoire.
Oui, c'est une belle histoire. Donc, ce film, La Dégustation, nous n'en avons pas parlé à Cinémascope. Parce qu'il est sorti donc cet été, fin août, 31 août, donc avec Isabelle Carré et Bernard Campan. C'est à partir d'une pièce du réalisateur, hein, Ivan Kalberak. Cette pièce, elle est donnée avec Isabelle Carré et Bernard Campan dans le même rôle à la Renaissance à Paris. Et c'est la troisième de ces pièces qu'Ivan Kalberak porte à l'écran. Il se donne comme modèle Jaoui et Bakri. On va peut-être pas en faire des tonnes là-dessus non plus. Mais c'est une comédie plutôt sympathique qui nous raconte l'histoire de deux personnes. Donc Isabelle Carré, qui est une jeune femme catholique, qui en désir d'enfant et qui s'occupe un petit peu de SDF, etc., mais qui est bien, bien seule, ce qui n'aide pas à avoir un enfant, effectivement. Et puis d'un autre côté, Bernard Campan, caviste, amateur de vin, qui visiblement dans sa vie a dû traverser des passages un peu compliqués qui ont contribué à l'isoler. Il est accompagné d'un stagiaire dans sa cave qui est issu des cités, autre forme d'isolement. Et puis il a un ami libraire qui sort peu de sa librairie apparemment, encore un isolement. Donc ce film, c'est un petit peu la conjugaison des solitudes, la conjuration des isolements d'une certaine manière. Encore une fois, c'est assez léger, c'est filmé en scope pour qu'on voit bien l'interaction entre les personnages, parce que comme tu le soulignais, c'est bien la question, une histoire va-t-elle se construire ou pas entre ces deux personnages. À voir donc à Twates ce soir si le cœur vous en dit oui.
Ce sera 20h30 et puis mardi on reste à la Vespra de Tueil avec la Maison de l'Image pour voir Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, je ne sais pas si on le dit comme ça,
Sorogoyen,
oui c'est ça, avec notamment Marina Foïs. Alors là, et là c'est un film qui est sorti au mauvais moment presque j'allais dire, pendant l'été.
Il est sorti le 20 juillet je
ouais,
crois.
Ouais c'est ça, vers, en tout cas en courant juillet, donc peut-être pas une bonne période pour être vu. Et donc, il va être repris. Hein.
Ah oui.
Un scoop.
Le scoop. Le scoop, parce qu'il y aura des séances pendant les Rencontres des Cinémas d'Europe, parce que c'est un film très fort, en fait. Hein. C'est... Oui.
Tu voulais... Qui veut en parler?
Non, bah, non bah, juste oui. On peut en parler tous les trois.
Voilà, bien en même temps, hein, s'il vous plaît.
Donc, c'est un film qui est très fort. Alors, déjà, qui commence par une scène spectaculaire, ouais. Enfin, qui a un rite traditionnel dans cette région-là de Castille, là, je crois.
De Galice.
Et qui est assez spectaculaire. Après, bah, c'est l'histoire d'un couple, hein, donc Denis Ménochet et Marina Foïs, qui sont installés là-bas. Bon, après, on découvre pourquoi ils sont installés là-bas. Et c'est presque un accident de parcours, on va dire. Quand il y a la discussion, il lui dit, mais t'aurais dû aller dans une autre vallée. Et en fait, ils vont se retrouver confrontés à l'hostilité de leur voisin immédiat, alors qu'eux ont un projet, en fait, assez génial, puisqu'en fait, ils font du maraîchage bio, mais ils ont aussi comme projet de retaper les baraques abandonnées pour cœur de gens. Voilà. Ils sont rapidement accusés par les voisins de ne pas avoir soutenu un projet d'installation d'éoliennes et qui aurait, soi-disant, apporté la richesse à ses voisins. Alors, par contre, ce qui est moi, génial, bah, rapide, hein, vous compléterez, mais ce que je trouve vraiment génial dans le film, c'est qu'il est en deux parties, quoi, quasiment. Ouais. Et notamment à l'amorce de la deuxième partie, on ne sait plus quand c'est, quoi. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, parce que je ne vais pas en dire plus, sinon ce serait dévoiler le truc. Mais... Et puis, la tension est. Bon, c'est un film qui est tendu, hein, attention, ouais, il y a quand même des scènes, hein, c'est très thriller. C'est, ouais. Voilà. Et puis, voilà, je l'avais demandé à une amie qui m'est proche, mais en fait, dans le film, il y a une allusion, il se fait un peu insulter dans un bar et on lui reproche Napoléon. Et. Toujours aujourd'hui, en Espagne, il paraît qu'on reproche des fois certains Français Napoléon à l'époque où Napoléon avait foutu un de ses frangins là-bas, enfin genre népotisme, et ouais. Qui avait abusé des Espagnols pendant
Portugal,
le règne.
Au Portugal
voilà,
aussi.
Donc il paraît qu'il y a toujours ce truc, c'est pas normal. Mais franchement, un super film. Et bon, déjà, Sorogoyen est... peut-être pas régulier, mais il a fait des El Reno, il avait fait... Madré, alors ça, moi, celui-là, j'avais moins aimé, mais Que Dieu nous pardonne, qui était passé aux Rencontres, qui était absolument génial. Enfin, un très, très bon film, allez-y. Hein. Et retournez-y si vous l'avez vu une fois.
C'était... Oui, bah, entièrement d'accord sur la tension qui parcourt ce film tout du long et sur le jeu. Moi, j'avais cet été, assez naïvement, j'avais été surpris agréablement, encore une fois, hein, par le jeu de Marina Foïs, qui est pratiquement, comme on dit, de tous les plans et qui assure, qui fait le taf de manière absolument extraordinaire. Là, on oublie complètement la Marina Foïs rigolote, un tantinet olé olé, etc. Là, vraiment, c'est une vraie performance. Je ne sais pas ce qu'en pense Cathy. Mais...
Ah bah oui, performance des acteurs, que ce soit Denis Ménochet qui a pris encore plus d'ampleur et qui est imposant et en même temps qui est tellement fragile. Par rapport à ses frères, ses voisins qui sont incroyables aussi. L'interprétation là, de ces deux acteurs, ça fait froid dans le dos. Ouais. Et c'est un film très, qui est dès la première scène, je suis d'accord, pose quelque chose et on est embarqué aussi complètement.
Bien, et ben on va le revoir. ou le voir mardi
soir.
Le voir,
ceux moi, qui ne l'ont pas vu, ouais. Ne désespérez pas, du 19 au 27 novembre, vous pourrez en profiter.
Voilà. Ou alors directement dès ce mardi,
20h30,
à la Vesprade
actuelle. À la Vesprade actuelle, exactement. Est-ce que je peux parler du coup de cœur surprise ?
Allez.
Pour rappeler ce petit dispositif que l'on porte, que l'ensemble des salles en France peuvent porter si elles le désirent, c'est en partenariat avec l'Association française des cinémas d'art et essai. Ça s'appelle les coups de cœur surprise. Donc là, l'idée, c'est de faire confiance à sa salle. Il y a un film qui est présenté. Personne ne sait ce que c'est, sauf nous, évidemment. Mais l'idée, c'est de...
C'est Blanche-Neige, en fait.
De découvrir une œuvre chaque mois. On va alterner. Donc la prochaine fois, c'est le 4 octobre à Lussas. On alternera Tueil et Lussas. Et voilà, faites-nous confiance sur le... Le choix du film, parce que ça reste une avant-première quand même, donc c'est sympa de découvrir un film avant tout le monde aussi, sans savoir ce que
c'est. Le mec qui n'a rien suivi, c'est quoi déjà que tu m'as dit?
D'ailleurs, il joue bien de machin là-dedans. Là.
Ouais, bah oui. Ouais.
Okay. C'est surtout le scénario, parce que c'est tiré d'un roman, comme on voit dans l'émission là.
En général, dans notre petite note, on met 2-3 infos pour que les gens sachent quand même, parce qu'il ne faut pas venir en famille si c'est un film interdit aux moins de 16 ans, évidemment, on précisera tout ça avant.
Sauf si on a des enfants âgés.
Oui, et aussi.
Alors, puisque vous parliez de lecture, puisque vous parliez de cinéma, puisque vous parliez d'un livre, un film qui a lieu le dimanche et qui sera rediffusé d'ailleurs ce dimanche sur notre antenne en matinée, je voudrais aussi vous signaler, comme je l'ai déjà fait la semaine prochaine pour Le Secret de mon père, vous signaler la diffusion. Alors, ce n'est pas tout à fait à côté de chez nous, mais comme on nous entend, il me semble, jusqu'à la vallée du Rhône. Si vous voulez aller au ciné de Cruas ce soir, oui, c'est bien ce soir, vous pourrez assister à la projection du film Le Mystère Henri Pic. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais comme vous le savez, c'est tiré d'un livre éponyme. Eh bien, à 20h, il y aura des lectures d'extraits de livres dans la salle avant la projection, voilà, de ce roman de Fuenquinos. David, je crois que c'est ça.
David, oui.
David, hein, Fuenquinos. Voilà, donc, et c'est dans le cadre des rencontres autour du livre qui ont lieu jusqu'au 16 octobre. Vous pouvez avoir le programme complet sur ardecheroncoiron.fr. Voilà, donc une occasion de revoir ce film, Le Mystère Henri Pic, ce soir, 20h30, au ciné de Cruas, précédé d'une lecture. Voilà, tout étant dit, on peut se quitter, vous dire à la semaine prochaine. Je vous remercie d'être là tous les trois autour de cette table. Ce sera 12h10 et 17h10, comme cette semaine.
Bonne semaine à toutes et à tous.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Bye bye.
Et aussi...
Voilà. Paris, ça.